Au début, je me suis inquiétée de deux choses. Comment poser mes questions à Ethan Hastings sans trop en dévoiler, et comment comploter contre mon mari étant donné mon emploi du temps très serré. La solution à ces deux problèmes s'est révélée d'une simplicité déconcertante. Je retrouvais Ethan tous les jours pendant mon heure de battement. Je lui avais dit que je créais un module d'enseignement sur la navigation Internet pour les sixièmes. Sous couvert de travailler à un projet de classe, Ethan a répondu à toutes mes questions et au-delà. J'ai commencé par la sécurité sur Internet. On ne pouvait pas laisser des sixièmes aller sur des sites pornographiques, n'est-ce pas? Ethan m'a montré comment gérer les autorisations des comptes et des navigateurs pour interdire certains sites aux utilisateurs. Ce soir-là, après avoir couché Ri, j'ai allumé l'ordinateur familial et je me suis mise au travail. J'ai ouvert le menu sécurité sur AOL et je me suis attelée à supprimer les autorisations. Bien sûr, après m'être couchée, j'ai réalisé que Jason ne se servait peut-être pas d'AOL pour surfer. Peut-être qu'il utilisait Internet Explorer ou un autre navigateur. Je suis revenue vers Ethan le lendemain. Est-ce qu'il y a un quelconque moyen de savoir exactement quels sites ont été visités par chaque ordinateur? Tu vois, pour pouvoir vérifier si chaque élève va là où il est censé aller et si nos procédures de sécurité sur Internet sont efficaces. Ethan m'a expliqué qu'à chaque fois qu'un utilisateur clique sur un site, ce site génère un cookie et que des copies temporaires de ces pages sont enregistrées dans la mémoire cache de l'ordinateur. Celui-ci archive aussi un historique de navigation, si bien qu'en consultant les bons fichiers, on peut savoir exactement où tel ordinateur s'est rendu sur la toile. J'ai encore dû attendre 5 soirs que Ri soit au lit et Jason au travail. Ethan m'avait montré comment cliquer sur le menu déroulant de la barre de recherche Internet pour faire apparaître les derniers sites visités par l'ordinateur. J'ai sélectionné la barre de recherche, trouvé le menu déroulant et découvert 3 lignes: georgereport.com, usatoday.com et newyorktimes.com. Ça m'a tout de suite paru trop peu, parce que quand Ethan l'avait fait dans la salle d'informatique, nous avions trouvé facilement une douzaine ou une quinzaine de sites. Alors j'ai démarré Internet Explorer et j'ai essayé son historique de navigation qui m'a donné exactement le même résultat. J'étais bloquée. Après ça, j'ai surveillé un petit moment l'historique de navigation, tous les 3 ou 4 jours, au hasard, quand je pensais pouvoir l'ouvrir rapidement sans que Jason ne s'en aperçoive. Je trouvais systématiquement les 3 mêmes sites, ce qui me paraissait aberrant. Jason passait des heures d'affilée devant l'ordinateur, impossible qu'il lise simplement les journaux. 3 semaines plus tard, j'ai eu une inspiration. J'ai élaboré un questionnaire d'instruction civique pour que mes élèves fassent des recherches sur les 5 libertés garanties par le premier amendement. Puis j'ai allègrement surfé sur Internet. J'ai trouvé des sites d'histoire, des sites gouvernementaux, Wikipédia, toutes sortes de trucs bien. J'ai cliqué sur tout, et quand j'ai eu fini ce soir-là, le menu déroulant affichait une belle liste de sites récemment visités. Je suis allée au collège le lendemain et j'ai donné au pied levé à mes élèves un cours sur la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de la presse, la liberté de réunion pacifique et la liberté de pétition. Puis je me suis hâtée de rentrer à la maison et j'ai eu du mal à me contenir jusqu'à ce que Ri soit au lit et que je puisse une nouvelle fois consulter l'historique de navigation d'Internet Explorer. Vous savez ce que j'ai trouvé? 3 sites. Dutch Report, USA Today et le New York Times. Tous les sites que j'avais visités 24 heures plus tôt avaient disparu. Supprimés. D'une manière ou d'une autre, mon mari effaça ses traces sur Internet. Le lendemain, j'ai soumis la question à Ethan à la seconde où il est entré dans la salle informatique. J'ai discuté avec une autre professeure après les cours hier et elle m'a laissé entendre que vérifier l'historique de navigation n'est pas suffisant, qu'il est possible de le falsifier ou quelque chose de ce genre. J'avais l'air désemparée et Ethan s'est immédiatement assis devant l'ordinateur le plus proche pour l'allumer. Oui, bien sûr, Madame Jones, on peut vider la mémoire cache après la navigation. Ça fera comme si on n'était jamais allé sur le site. Regardez, je vais vous montrer. Ethan s'est connecté au site du National Geographic, puis est ressorti et m'a montré quelles options utiliser pour effacer la mémoire cache de l'ordinateur. J'étais déconfite. Alors en fait, je n'ai aucun moyen de savoir vraiment ce que font les enfants, si? Enfin, si jamais l'un d'eux trouve comment vider la mémoire cache et il suffit d'un clic, il pourra aller sur toutes sortes de sites quand j'aurai le dos tourné sans que je n'en sache jamais rien. Ethan a tenté de me rassurer. Bah, vous avez les paramètres de sécurité de base. Mais ils ne sont pas non plus infaillibles. Tu me l'as montré quand tu les as installés la première fois. J'ai comme l'impression que je ne peux pas vraiment contrôler où vont les élèves et ce qu'ils font. Un module d'enseignement sur la navigation Internet n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Ethan a réfléchi un instant. C'était un enfant brillant, sérieux, mais solitaire. J'avais le sentiment que ses parents l'aimaient, mais ne savaient absolument pas quoi faire de lui. Il était trop intelligent, il intimidait même les adultes. Le genre de gamin destiné à souffrir pendant les 20 premières années de sa vie, mais qui plus tard introduirait sa société d'informatique en bourse à l'âge de 21 ans et finirait marié à un top modèle et au volant d'une Ferrari. Mais il n'en était pas encore là, et j'avais pitié de sa timidité maladive, du regard éminemment analytique qu'il portait sur le monde entier et dont le commun des mortels ne serait jamais capable. « Vous savez que quand on supprime quelque chose sur un ordinateur, ça s'efface jamais vraiment », m'a-t-il dit. « Non, j'en avais aucune idée. » « Ah, mais si », a-t-il expliqué avec animation. « Vous voyez, les ordinateurs sont foncièrement paresseux. »« Ah bon ?»« Oui, la première fonction d'un ordinateur est de stocker des données. » »« Quand on y pense, le disque dur n'est qu'une gigantesque bibliothèque remplie d'étagères vides. » Ensuite, vous, l'utilisateur, vous arrivez et vous commencez à saisir des documents, à télécharger des informations, à surfer sur Internet, tout ce que vous voulez. Vous créez alors des livres de données que l'ordinateur range ensuite sur les étagères. D'accord. Comme n'importe quelle bibliothèque, l'ordinateur doit pouvoir ressortir les livres à la demande. Donc il crée un répertoire, son catalogue à lui, dont il peut servir pour retrouver chaque donnée sur les étagères. Vous comprenez ? Je comprends, lui ai-je assuré. Ethan m'a adressé un sourire radieux. Manifestement, en plus d'être une bonne enseignante, j'étais une excellente élève. Il a continué son cours magistral. Alors voilà où l'ordinateur devient paresseux. Quand on efface un document, l'ordinateur ne prend pas le temps de retrouver les données elles-mêmes sur les étagères pour les supprimer. Ça ferait trop de travail. Au lieu de ça, il se contente d'enlever la référence au document dans le répertoire. Le livre est toujours là, mais le catalogue n'indique plus où il se trouve. Je suis restée un instant sans voix devant mon partenaire rouquin. Tu veux dire que même si la mémoire cache est vide, ces fichiers Internet sont toujours quelque part dans l'ordinateur ? J'ai récolté un deuxième sourire pour cette question. Tout compris. Je n'ai pas pu résister. Je lui ai rendu son sourire. Cela l'a fait rougir et m'a ramené à la prudence. Ce n'était pas parce que je me servais d'Ethan Hastings que je voulais le faire souffrir. Donc si ça ne figure plus dans le catalogue, comment retrouver l'information ? Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans l'historique de navigation de l'ordinateur, je vous recommande PASCO. PASCO ? C'est un logiciel d'investigation informatique téléchargeable sur Internet. Voilà comment ça se passe. Quand quelqu'un vide la mémoire cache, l'ordinateur la vide rarement complètement. Il oublie au moins quelques fichiers index.dat. Donc vous ouvrez les historiques, vous lancez PASCO et il vous sortira un fichier CSV. Un fichier CSV ? Un fichier qui ouvrira un tableau Excel indiquant toutes les adresses web visitées par l'ordinateur avec la date et l'heure. Vous pourrez copier-coller une des adresses directement dans le moteur de recherche et ça vous mènera au site pour jeter un œil. Et voilà, vous connaîtrez tous les endroits où l'ordinateur a été. Comment tu sais ça ? Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. Ethan a rougi jusqu'à la racine des cheveux. Famille. Ta famille. Ma mère fait tourner PASCO sur mon ordinateur toutes les semaines. « Ce n'est pas parce qu'elle ne me fait pas confiance », a-t-il expliqué en devenant de plus en plus cramoisi. « C'est par simple mesure de vigilance, comme elle dit. Elle sait que je suis plus intelligent qu'elle, donc il faut bien qu'elle mette quelque chose de son côté. »« Ta mère a raison, Ethan. Tu es un génie et je te remercierai jamais assez de m'aider pour ce module d'enseignement. » Ethan a souri, mais d'un air plus pensif cette fois-ci. À la maison ce soir-là, je m'y suis mise pour de bon. Après deux histoires, une chanson et une demi-comédie musicale, Rhee était couché, Jason sorti et j'étais seule avec mes toutes nouvelles connaissances en informatique et des soupçons à l'appel. Premier point à l'ordre du jour, télécharger et installer le logiciel d'investigation PASCO de chez Foundstone. Ensuite, j'ai exploré le répertoire système pour identifier d'éventuels fichiers historiques et faire analyser leur contenu par le logiciel. La tête rentrée dans les épaules, j'ai picoré sur le clavier, les yeux rivés sur de minuscules caractères à l'écran, l'oreille tendue pour guetter l'arrivée de la voiture de Jason dans l'allée. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire et tout prenait plus de temps que je ne m'y attendais. Avant que je ne m'en aperçoive, il était minuit passé et Jason allait rentrer d'une minute à l'autre. J'étais toujours en train de générer des rapports et je n'avais pas encore trouvé comment désinstaller PASCO, dont la simple présence sur le bureau alerterait Jason sur le fait que j'étais au courant de quelque chose. J'étais surexcitée et nerveuse quand j'ai enfin obtenu la boîte de dialogue, me demandant si je voulais ouvrir ou enregistrer le fichier CSV. Je ne savais pas trop ce que je devais faire, mais il ne me restait pas beaucoup de temps, alors j'ai cliqué sur « Ouvrir » et j'ai vu un tableau Excel envahir l'écran sous mes yeux. Je m'imaginais découvrir des dizaines d'adresses Internet, des sites porno, des forums, de nouvelles photos atroces de petits garçons terrifiés. Les preuves que l'homme que j'avais choisi pour élever mon enfant était un dangereux pédophile ou un de ces malades qui se promènent sur MySpace pour s'en prendre à des enfants de 12 ans. Je savais pas encore très bien ce que j'espérais ou ce que je redoutais. J'avais les yeux hermétiquement clos. Je pouvais à peine me résoudre à regarder. Oh, que faisait mon mari de toutes ces longues nuits? Trois lignes s'étaient affichées. Je savais de quoi il s'agissait avant même d'entrer les adresses dans le moteur de recherche. Drudge Report, USA Today et le New York Times. Mon mari gardait bien ses secrets. Le lendemain, à l'heure de battement, Ethan m'attendait déjà dans la salle informatique. « Ça a marché ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas su quoi répondre. « Alors ? » s'est-il impatienté. « Vous avez découvert ce que faisait votre mari sur Internet ?» J'ai regardé mon premier de la classe bouche bée. Il est resté factuel. Les sixièmes ne sont pas si calés que ça en Internet. Enfin, moi je l'étais, mais vous n'en avez pas un seul comme moi dans votre classe, donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Reste votre travail, mais je m'introduis régulièrement dans l'ordinateur de l'école et il se passe rien d'intéressant. « Ethan ! » !»« Donc la dernière possibilité, » a-t-il continué avec désinvolture, « c'est que vous vous inquiétiez de quelque chose chez vous. Lui n'a que 4 ans, donc ça peut pas être elle. Il reste que votre mari. » Je me suis assise, ça semblait préférable à la station debout. « C'est du porno ?» a demandé Ethan avec ses yeux bleus candides. « Ou bien il joue avec vos économies ?» « Je ne sais pas, » ai-je enfin répondu. « Vous n'avez pas fait tourner Pasco ?»« Si, mais ça m'a sorti que 3 adresses, les 3 que j'avais déjà vues auparavant. » Ethan s'est redressé sur sa chaise. « Vraiment ? Vraiment. Waouh, ça doit être un destructeur de fichiers. Je les connais seulement de réputation. Cool ! » C'est bien, un destructeur de fichiers ? Oui, quand on veut effacer ses traces. Un destructeur de fichiers ou un nettoyeur de disques durs, c'est comme un râteau. Il efface toutes les empreintes que vous avez pu laisser derrière vous dans la mémoire cache. Il efface des choses que l'ordinateur paresseux n'effacerait pas en temps normal. Non, les destructeurs aussi sont paresseux. Ils vident automatiquement la mémoire cache pour que vous ne soyez pas obligé de penser à le faire à la main. Donc un utilisateur peut aller dans toutes sortes d'endroits, puis détruire les preuves. Mais comme l'absence d'historique de navigation peut aussi donner l'alerte... Votre mari essaie de se montrer plus malin en reconstituant un faux itinéraire sur Internet. Heureusement pour nous, il n'est pas trop bon à ce jeu-là. Je n'ai rien répondu. Mais voilà où ça devient marrant. Les destructeurs ont des failles. D'accord, ai-je réussi à dire. Chaque fois que vous cliquez sur une page Internet, l'ordinateur génère tellement de fichiers temporaires que le destructeur n'arrive jamais à les retrouver tous. Et puis le destructeur ne travaille lui aussi que sur le répertoire. Donc les fichiers sont toujours là. Il suffit de les trouver. Comment ? Avec un logiciel plus performant. Pasco est en accès libre. Il vous faut maintenant un remède de cheval sur ordonnance. « Je ne connais pas de pharmacien, » ai-je dit désorienté. « Moi si, » a répondu Ethan Hastings avec un grand sourire.